Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Scénariste, productrice, réalisatrice, bref, auteure complète. Mais inconnue, oubliée. Parce qu'elle était une femme. Qui était Alice Guy? Qui est Alice Guy? La question se posait dans les années 70 sur France Culture. Comme se posait la question, sans doute, où naissent les enfants? Dans les choux, bien sûr. Son film, La fée aux choux, le montrait explicitement. Une terrasse, un drap peint, des rangées de choux découpés par des menuisiers, des décors loués çà et là, et quelques bébés. Qui est Alice Guy, par Nicole Lise-Bernheim et Claire Clouseau, lecture Delphine Seyrig, en direct sur France Culture le 2 juillet 1975.
Oh, 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 oh.
Dans un chou.
Est-ce que vous savez qui est Alice Guy?
Non.
Vous n'en avez jamais entendu parler?
À moins que ce soit la femme du ministre des Affaires culturelles, je ne vois pas qui ça peut être.
Vous semblez connaître ou vous intéresser au passé de la Maison Gaumont. Est-ce que vous savez qui est Alice Guy?
Alors, attends, Alice Guy, Madame Guerbe. Ah non. Je m'intéresse dans le sens où j'essaie de réunir, oui, mais Alice Guy, c'est quelqu'un qui était dans la maison? Non. Je reconnais, je ne connais pas tout le monde. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés chez Gaumont. Qui a été salarié de la société? Très longtemps?
11 ans.
Vous êtes là dans la maison depuis 1933. Est-ce que vous savez qui est Alice Guy?
Non, je ne connais pas.
Mais c'est ton nom?
Je ne sais pas du tout, mais ça dépend ce qu'elle faisait.
Monsieur Toscan Duplantier, vous êtes le nouveau directeur de chez Gaumont.
Oui.
C'est une vieille maison.
C'est une ancienne maison.
La question que nous voulons vous poser, c'est qui est Alice Guy?
Qui est Alice Guy? C'est un titre de film.
Presque.
Quelqu'un qui travaille ici? Il semble avoir vu ce nom. Mais je pense pas connaître.
Oh, à peu près 25 mètres.
25 mètres?
Oui, tout au plus.
Et quel a été le plus long film que vous ayez fait?
Eh bien, je crois que c'est La Passion que j'ai fait en 1907, en 1906, avant mon départ pour l'Amérique, et où j'ai fait des surimpressions, etc., des choses qui étaient alors tout à fait nouvelles.
Et le film durait combien?
Le film, il avait 600 mètres.
Avait 600 mètres. Et vous étiez à la fois la scénariste,
oui.
Le réalisateur,
oui.
Et d'autre part, vous êtes devenue productrice en Amérique.
Oui, je suis devenue productrice en Amérique. Nous sommes partis pour représenter le Chronophone. Mon mari était directeur, comme vous le savez, directeur d'une des branches, la branche allemande. Et M. Gaumont l'a choisi pour aller présenter le Chronophone en Amérique. Et nous étions fiancés, il n'en savait rien. Et j'ai dû partir avec lui. Je me suis mariée et je suis partie avec lui.
C'était un enlèvement, si je comprends.
Pas tout à fait.
Et alors, je vais vous demander, que pensez-vous du cinéma aujourd'hui, Madame Alice?
Je pense qu'on a fait des progrès énormes, évidemment. Mais je pense aussi que je n'aimerais pas être metteur en scène maintenant, parce que je n'aurais pas mes coudées franches comme je les avais à ce moment-là.
Et combien coûtait un film moyen à l'époque?
Très cher, très cher.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai commencé, comme je l'ai dit à quelqu'un il y a quelques temps, j'ai commencé avec ma dot qui était de 50 000 francs, mais évidemment 50 000 francs de cette époque, ça valait tout de même quelque chose.
Ça valait combien à peu près?
Bon, je ne sais pas, ça valait... C'était déjà à peu près 11 francs du dollar, je crois.
Ah bon, ben c'était une belle somme.
C'était déjà une jolie somme. Et j'ai eu la grande chance que nos films ont plu énormément et nous avons fait des bénéfices de 100% tout de suite. Et ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que je viens de lire quelque chose dernièrement sur M. Chabrol. Mmh. Et M. Chabrol recommence exactement où je suis partie, moi. C'est-à-dire, il fait des films avec ses amis, n'est-ce pas?
Et d'autre part, avec l'argent et que avec sa femme avait porté en dot. Ou quelque chose comme ça.
Oui, et il réussit des films en très peu de temps, en somme. Nous faisions, nous, un film par mois, c'est vous dire.
Et des films qui étaient longs, enfin qui étaient alors d'une durée moyenne assez grande.
Oui, assez grande.
Et combien de films en tout avez-vous tourné?
Oh, je crois qu'en Amérique, j'en ai fait au moins 200.
Eh bien voilà, je pense qu'aucun metteur en scène actuel ne peut revendiquer 200 films.
Mais oui, mais ça dépend de la qualité aussi, vous savez.
Ah, mais ça...
Je crois que ce n'était pas trop mauvais parce que ils avaient du succès.
Et vous aviez de grandes vedettes ou bien la vedette n'existait pas encore?
J'ai eu de grandes vedettes.
Par exemple?
J'ai eu Bessie Love, j'ai eu... Carla et Blackwell, j'ai eu enfin des grands noms.
Oui, oui,
j'ai eu des grands noms.
Et vous n'avez pas songé à écrire vos mémoires?
Mes mémoires sont écrites et malheureusement pas publiées.
Alors nous les attendons avec beaucoup d'impatience.
Mais oui, mais il faut que je trouve un public.
Un éditeur, ou ça. Écoutez, j'ai l'impression que ça va se trouver très facilement.
Vous croyez?
Oui. Oh. La voix que vous venez d'entendre était celle d'Alice Guy. Le film dont elle parlait était son premier film, La fée aux choux. Il avait 17 mètres, mais elle le fit en 1896. Elle est née en 1873, elle aurait 100 ans aujourd'hui ou plus. Elle fut d'abord secrétaire de Léon Gaumont et on lui a offert de tourner quelques petites scénettes, pourvu que ça n'empiète pas sur son travail. De 1999 à 1907, elle a fait et reconnu 47 films en France, de toutes sortes, et 100 films enregistrés au chronophone. Et aux États-Unis, plus de 100 films, elle l'a dit tout à l'heure au micro. Après 1920, on ne parle plus d'elle, elle cesse de filmer, on l'oublie, on l'oublie, on l'oublie.
Il faut d'ailleurs ajouter que les 3 minutes qu'on a entendues de la voix d'Alice Guy sont les seules qu'on a pu trouver à la phonothèque de l'ORTF. C'est-à-dire que même ici, elle est oubliée.
Cette voix était enregistrée le 15 avril 1959, quand Alice Guy était en France pour recevoir la Légion d'honneur et la médaille du cinéma au titre de la Société des auteurs de films. Aujourd'hui, Alice Guy nous parle par son autobiographie qui sera publiée à la rentrée aux éditions de Noël.
Fille d'un éditeur, j'avais beaucoup lu, pas mal retenu. J'avais fait un peu de théâtre amateur et pensais qu'on pouvait faire mieux. Marmant de courage, je proposais timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi.
Bon, ensuite nous allons entendre la voix de Charles Ford, historien du cinéma, suivie de celle de Henri Langlois, historien du cinéma également et qui dirige la Cinémathèque française.
C'est très complexe. Je voulais dire surtout ce qu'on ignore généralement, ce qu'on ignorait en tout cas il y a quelques années, c'est que finalement, le premier réalisateur de films au monde après Louis Lumière, c'était une réalisatrice. Car Alice Guy a commencé à réaliser des films avant Georges Méliès. Elle, c'était une jeune femme qui s'était passionnée pour ça, tandis que Georges Méliès était un homme de théâtre, directeur de théâtre, et puis qui a exploité ça d'une façon magnifique, je le reconnais, mais on avait oublié Alice Guy. Le silence que l'on a fait sur Alice Guy est un silence qui ne vient pas du tout du fait que c'est une femme, c'est simplement du fait que ça a été un des premiers réalisateurs, et qui est donc resté dans l'ombre, parce qu'elle n'a pas fait de choses éclatante, de choses brillantes. Elle a fait des choses honnêtes, honorables, sympathiques, mais rien de brillant. En plus de ça, pour une raison que j'ignore et que je crois que personne ne pourra jamais expliquer, on a monté en épingle Georges Méliès, qui le mérite indiscutablement, mais on l'a tellement monté en épingle qu'on a un petit peu oublié Alice Guy.
Comment expliquez-vous qu'on ait eu tant d'intérêt à retrouver les primitifs français, comme on les appelle, à montrer Georges Méliès à la Cinémathèque française, par exemple? Est-ce qu'on a montré Alice Guy?
Pour une raison très simple, je crois, c'est que Georges Méliès était évidemment un cinéaste, un des premiers cinéastes, puisqu'il a été le troisième en date. D'abord Louis Lumière, ensuite Alice Guy, ensuite Georges Méliès. Georges Méliès, en plus, était producteur de ses films. Il lançait lui-même ses films. Il avait intérêt à les lancer, alors qu'Alice Guy travaillait pour Gaumont, et que dans la production Gaumont, au bout de 2 ou 3 ans, la production Alice Guy était une petite production à côté de beaucoup d'autres.
Voyez-vous, nous faisons un procès de mauvaise intention aux historiens du cinéma.
Mais pourquoi?
Par rapport à elle.
Pourquoi?
Parce que nous avons l'impression que... les choses étant ce qu'elles sont, l'histoire étant régie par les hommes, comme nous savons tous, Alice Guy a peut-être plus facilement été oubliée, quel que soit son génie. On a peut-être plus facilement déclaré qu'elle n'avait pas de génie parce qu'elle était une femme, que ce qu'elle faisait n'était pas brillant.
Sincèrement, je ne crois pas. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Je répète que c'est peut-être un peu paradoxal, mais je le dis quand même. Alice Guy aurait été un homme. Elle serait oubliée complètement, et on n'aurait pas ressorti de l'oubli. De même qu'on ne ressort pas de l'oubli Monsieur Georges Hatto, Monsieur je ne sais plus qui, André Heuzé, et tous les autres qui ont travaillé en même temps qu'elle. Personne ne s'occupe d'eux. Si on l'a ressorti, c'est parce que c'était une femme, et que c'était intéressant de dire que le premier réalisateur était une réalisatrice. Car si ça n'avait pas été intéressant de le dire, eh bien, on l'aurait pas dit, et elle serait oubliée complètement.
La fée,
c'est un grand film héroïque qui a été filmé en 1896. La première réalisatrice du cinéma, oui, bien avant Feuillade, bien avant Méliès, Gaumont, Lumière. La fée aux choux, oui, la fée aux choux. La fée aux choux, le premier film. Aux choux, le premier. 1896, je vous ai déjà dit que c'était en 1896. Mais oui, bien sûr, 1896, bien sûr. Oui, elle avait 20 ans. Enfin, elle s'appelait Alice Guy, elle est très connue, on en parle dans tous les livres de cinéma. On n'en parle pas.
On en parle dans tous les livres.
On parle de la fée aux choux quand même.
On n'en parle pas. On parle de la fée aux choux quand même.
Grand silence, grand blanc sur la page. Grand reportage, grand blanc sur la page.
Chanson.
Je l'ai connue quand elle est venue en France, il y a, comme vous dites, vers 63-64, parce qu'elle habitait la Belgique à ce moment-là. J'ai connu une dame charmante, parfaite, mais enfin certainement pas l'Alice Guy des années, certainement pas l'Alice Guy ancienne, vous comprenez. Méliès était un bon grand-papa quand je l'ai connu, et c'est seulement en entendant sa voix un jour, dans ce qui avait été enregistré sur un disque, que je me suis rendu compte comment il devait être quand il était plus jeune, autoritaire, charmant, mais autoritaire. Alice Guy, c'est pareil. J'ai vu une dame âgée, charmante, entourée de ses enfants, au milieu de ses enfants, comment dirais-je, adoptifs, la famille Gaumont. Et c'est elle qui a élevé les enfants de Gaumont. Bon, bah, ça n'a plus aucun rapport avec le personnage qu'elle a dû être. Et aussi bien sur le plan de, comment dirais-je, et de l'activité, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors maintenant, deuxième souvenir sur Alice Guy, c'est une photographie des années 17. Je vois une dame très élégante, avec des plumes, un chapeau très élégant, habillée haute couture, ou en tout cas, si c'est pas très loin, et dirigeant un film. Bon, ça faisait très, très femme du monde, très, très, très dame bien, vous comprenez, presque dame patronesse. Bon. Ça ne veut pas dire que le film était dame patronesse, mais enfin, c'était ce genre-là. Vous comprenez, ce n'était pas le genre même Chanel, vous voyez ce que je veux dire, avec des... Non, c'était une dame bien, quoi. Ceci dit, j'ai beaucoup entendu parler d'Alice Guy par des collaborateurs de Gaumont. J'ai connu des gens qui ont travaillé, dans les années 40, des gens qui ont travaillé chez Gaumont, qui se souvenaient d'Alice Guy, vous comprenez. Quoique la plupart des gens étaient venus après son départ pour la France, mais enfin, j'ai connu un certain monsieur Georges Hatto, qui était un collaborateur de Jassé. Jassé avait traversé Gaumont à un certain moment, et ça, c'est ici que commence le mystère. On vous parle de la passion de Jassé, et on vous parle de la passion d'Alice Guy, et c'est le même film.
Film perdu.
Chanson terminée.
Oui.
Film perdu. Égaré.
Alice Guy.
Film égaré. Alice Guy, elle est morte. Film
Alice
égaré.
Guy est morte.
Non, elle a quel âge?
Ah, 90 ans. Elle est
99
morte.
Ans.
Elle est morte à l'âge de 90 ans.
Dans elle 99
morte.
Ans.
Elle est morte à l'âge de 90 ans.
International.
Le monde est agité.
Des trous.
Les pavés. Internationaux. Le monde était agité. Les pavés.
Les pavés.
Des pavés.
Déterré. Comme Alice Guy aujourd'hui.
Comme Alice Guy. Mais les pavés sont bitumés. Et Alice Guy est recouverte de terre. Enfermée.
J'ai l'impression dans certains, que les gens confondent, qu'il y a une confusion dans le mot metteur, le mot auteur du film n'était pas le même, n'avait pas la même résonance qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, je vois un film de Georges, on disait un film de Eusé, est-ce Eusé qui l'a mis en scène, est-ce Eusé qui l'a produit, on dit tout le temps des films de Zeka, or Zeka ne les a pas mis en scène. Par conséquent, c'est très très difficile de savoir ce qu'on appelait un metteur en scène. Le fait est qu'Alice Guy est certainement... Est-ce qu'elle était vraiment sur le plateau en train de diriger? Et la preuve, c'est la photo 17. Est-ce qu'elle était seulement, comme Feuillade, à la fois une directrice de film et en même temps une directrice de production? Puisque Feuillade coiffait toute la production Gaumont, c'était aussi le cas d'Alice Guy. Je suis incapable de vous le dire. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'au début de la maison Gaumont était un monsieur qui fabriquait des appareils. Et puis, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas vendre ses appareils, il ne fabriquait pas non plus des films. Bon, on a filmé ceci, puis ensuite, il s'est aperçu qu'il fallait des petites mises en scène. Et alors, probablement, dans son entourage, elle devait avoir lu des livres, elle devait ceci, et tout d'un coup, elle a donné des idées de films, de ceci, de cela, puis... des idées, elle est passée à l'exécution. Puisque la chose qui est incontestable en ce qui concerne Alice Guy, c'est elle qui est partie aux États-Unis monter toute la maison Gaumont et qu'elle a fait des films, qu'elle a signés, Albert Glachet et Alice Guy. Alors,
sur le début de ces films, La Fée aux Choux, 1896, et la première période, est-ce que vous pensez, vous, qu'elle a été peut-être la première femme à faire des films de fiction?
De toute façon, c'est la première femme qui a fait du film. Ça, c'est incontestable. En France, il n'y a pas d'autres femmes. Vous avez ensuite, en Amérique, dit-on, une femme à la même période. Je n'en sais rien, je dit-on. Mais à mon avis, Alice Guy est la première femme qui a fait du cinéma. Je parle comme dans ce genre de choses. Chez Pathé, vous n'avez jamais eu de femme. Chez Méliès, il n'y avait jamais de femme, si sur les scènes ou dans les lits. Mais il n'y avait jamais de femme au plateau, vous comprenez, sur le plan de la création. Je crois que la France, sur ce plan, pendant des années, la France a été le pays qui détenait le maxi. Ce qui était la gloire de la France, c'est qu'il y avait deux grands metteurs en scène féminins, qui étaient, je parle, dans les années 30, ça ne se comptait pas sur les doigts, les metteurs en scène féminins. Vous aviez Germaine Dulac et Alice Guy. Mais ce qui m'amuse beaucoup dans cette histoire, c'est que quand on connaît l'histoire de madame, si vous voulez, la petite histoire d'Alice Guy, c'était une dame qui aimait faire les mariages. Jassé a dû quitter le Gaumont quand il s'est aperçu qu'on allait le marier. Mais ceci, je peux vous dire que ce sont des commérages, vous comprenez, c'est, peut-être c'était Gaumont qui voulait avoir... voulait, vous savez, la respectabilité, ça existait à l'époque, par conséquent... une société, vous savez qu'on pointait chez Gaumont et chez Pathé, les metteurs en scène eux-mêmes, même Gaumont et Pathé pointaient en arrivant. C'était de la bonne organisation.
Vous m'avez dit l'autre jour qu'elle représentait la censure, Madame Censure.
Bah, c'est à cause de ça que je vous disais que c'est une forme de censure. Bon, ça, c'est, vous savez, c'est une question de temps. Il fut un temps où quand on voyait une jeune femme, une jeune employée s'embrasser avec un jeune employé, ils étaient renvoyés sur le champ parce que c'était pas possible, pas admis. Je parle dans le bureau, hein, dans un bureau. Il fut un temps où aller au cinéma était considéré comme une honte pour une jeune fille.
Et la Fée aux Choux, vous ne l'avez jamais vue?
Mais non, je l'ai jamais vue. Comment voulez-vous que je l'ai vue? Je suis... Vous savez, je suis pas né en 1860. Hein.
Mmh.
Les deux voix savantes que vous avez entendues étaient Charles Fort d'abord, historien du cinéma, qui a consacré un chapitre entier de son livre « Femmes cinéastes » à Alice Guy, puis Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque française. Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, vérité ou mensonge, pour débattre de cette question. Jacques Deslandes, historien du cinéma, André Svoboda, cinéaste, directeur des archives de la Maison Gaumont et directeur de l'audiovisuel à Joinville, et Francis Lacassin, historien du cinéma, qui lui aussi a consacré à Alice Guy un chapitre de son livre « La contre-histoire du cinéma ». Jacques Deslandes, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité?
Mais écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'il faudrait d'abord laisser la parole au grand guilliste, si j'ose dire, pour risquer un néologisme distingué, c'est-à-dire Lacassin, ses premières impressions sur ce qu'on vient d'entendre.
Francis Lacassin.
Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, c'est des querelles de chartistes, peut-être, avec ce que j'ai entendu. En ce sens que, d'abord, Alice Guy n'a jamais représenté la Maison Gaumont, ni tourné des films pour la Maison Gaumont aux États-Unis. Son mari était chargé de filmer des chronophones, c'est-à-dire des films parlants, enfin parlants entre guillemets, qui en général consistaient d'ailleurs à faire entendre un chanteur, donc un chanteur américain en Amérique, sur rouleau de cire, plus ou moins synchronisé avec son image. Mais elle n'a jamais dirigé de films pour la Maison Gaumont aux États-Unis.
Là, vous allez sauter tout de suite pieds joints par-dessus l'Atlantique. Vous ne croyez pas qu'il faudrait d'abord revenir au tout début? Moi, il y a beaucoup de choses qui me gênent.
Jacques Deslandes, oui. Est-ce qu'on peut revenir en 1896 au début, au départ?
Si vous voulez, moi, je pense que, effectivement, ça...
Francis Lacassin.
C'est indiscutable. Alice Guy est la première femme metteur en scène du monde. On n'en a pas trouvé d'autres à cette époque, et française, bien entendu. Qu'elle ait commencé en 1896, je ne sais pas... Qu'on ait dit aussi, je crois que c'est des membres du groupe Usidora qui prétendent qu'elle est la première femme à avoir tourné des scènes de fiction, ça m'étonnerait. Parce que
c'est elle qui prétend avoir tourné des scènes de fiction.
Non, oui, mais elle dit prétend avoir débuté avant Méliès.
Elle dit j'ai tourné avant Méliès.
Jacques Deslandes.
Mais en réalité, déjà, vers 1920, les anciens du cinéma se préoccupaient de fixer une chronologie. Je me rappelle avoir vu des discussions et tout le monde était tombé d'accord pour dire que c'est la Maison Pathé qui avait commencé la production la première.
Non, puis alors, avoir tourné des scènes
Jacques
de fiction
Deslandes.
Avant Méliès, qu'est-ce que ça veut dire? Méliès n'est pas le premier metteur en scène à avoir tourné des scènes de fiction. Écoutez, en 1895, il y a une certaine exécution de Marie Stuart qui a été faite aux États-Unis pour le kinétoscope Edison. Ben, c'était bel et bien une reconstitution historique. Bon, peut-être pas tout à fait de la fiction, mais c'était déjà une mise en scène avec un trucage par-dessus le marché. Alors, c'est cette obsession, moi, qui me gêne un petit peu. Toujours de premier.
Pardon, l'obsession nous gêne aussi un petit peu. Je veux dire, c'est un peu une querelle qui est dommage de tenir un peu. Mais la question... si vous voulez, pour laquelle nous avons décidé de faire cette émission, c'est pourquoi y a-t-il eu cet oubli d'Alice Guy? Est-ce, pour quelle raison? Est-ce parce que c'était une femme? Est-ce parce que c'était un mauvais metteur en scène, une mauvaise metteuse en scène? Ou bien était-ce pour d'autres raisons? Parce que c'est quand même étonnant que quelqu'un qui a quand même une certaine place dans l'histoire du cinéma soit oublié de cette façon-là.
Bah écoutez, là, Jacques dans ce qu'on vient d'entendre avec Ford et Langlois, je crois qu'ils ont dit quand même des choses justes. La maison de la radio, France Radio, a de l'argent à dépenser, vous pourriez faire des tas d'émissions. Qui était Georges Lacroix? Et on pourrait s'amuser à poser la question, qui était Georges Lacroix? Qui était Victorin Jassé? Un sujet qui me tient à cœur et qui tenait au cœur d'Alice Guy, puisqu'il a travaillé un petit peu avec elle. Ça, c'est très difficile à définir dans quelles limites et dans quelles mesures. Mais je crois que... elle n'a pas été oubliée. Enfin, si vous ouvrez les classiques, les grandes histoires du cinéma, vous trouvez quand même mention du nom d'Alice Guy. Bon, vous mentionnez...
Jacques Deslandes, ouvrons les grandes histoires du cinéma. Georges Sadoul mentionne à 12 reprises dans son tome 2 de l'histoire du cinéma le nom d'Alice Guy, mais il la mentionne peut-être surtout pour dire qu'elle était Mademoiselle Alice, qu'elle était la secrétaire de Léon Gaumont, qu'il lui a donné une terrasse bitumée pour faire quelques petits films, et puis il parle plus des films qu'on lui a attribué à tort, comme par exemple les méfaits d'une tête de veau de Zeka. On parle d'elle pour peut-être plus dire ce qu'il ne lui appartient pas plutôt que ce qui lui appartient. Et nous sommes là pour essayer de savoir avec vous qu'est-ce qui lui appartient. Alors, Francis Lacassin.
Alors, qu'est-ce qui lui appartient je crois, vraisemblablement, toute la première partie de la production Gaumont, jusqu'à l'arrivée de Jassé, Feuillade et Étienne Arnaud.
Disons jusqu'en
1905. Jusqu'à fin 1905, toute la partie de la production Gaumont, à l'exception de films d'actualité tournés dans les pays étrangers, encore qu'elle en ait tourné. Elle en a tourné quelques-uns en Espagne.
Avec des réserves malgré tout. Enfin, la date de 5, là j'ai une citation d'elle. Elle dit jusque-là, c'est-à-dire au moment de la construction du grand studio Gaumont, oui. C'est-à-dire là c'est datable, c'est 5, n'est-ce pas ? Jusque-là, donc, j'avais assuré seule la mise en scène. Et on m'adjoignit un chef de figuration, Denis Gau. Elle dit Denis Gau, en réalité, le personnage j'ai connu, c'est Denisot.
Mais c'est une faute de frappe, hein, je crois.
Oui, qui fit quelques films. Mais dans ce que dit Alice Guy dans ses mémoires, dans les articles et puis les interviews qu'elle a pu donner, il y a une chose qui me gêne un tout petit peu et qui est une chose malgré tout constante, je crois, pour tous les débuts de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne fait pas de l'histoire, mais un petit peu de l'histoire pour, disons, la Veillée des Chaumières ou l'Étoile des Noëlistes. C'est-à-dire que... vous froncez les sourcils, l'Étoile des Noëlistes, c'était une de mes grandes lectures d'enfance. C'était des petits récits pour le coin du feu où on faisait du roman. Et ça me gêne un petit peu parce que dire que Mademoiselle Alice Guy, bon, il y a un texte célèbre où, pour le tournage de la Fée aux Choux qui... d'après moi, n'est pas son premier film. De toute façon, on n'a certainement pas été tourné en 96, mais je pense beaucoup plus tard.
1900, probablement.
Oui, moi, nous sommes d'accord. Moi, je dis 99-1900. Nous avons parlé des méfaits d'une tête de veau. Moi, je les place avant.
Ah oui, c'est antérieur à la Fée aux Choux.
C'est antérieur, c'est ça. Oui, bon. Mais alors, pour prendre l'exemple de la Fée aux Choux, donc, scénario classique de la fée qui vient chercher les bébés dans les choux, on a l'impression que ça a été tourné, vous l'avez dit, sur un petit bout de terrasse. Cette terrasse, elle existe, effectivement. On peut en retrouver des traces dans le cadastre. On sait quand elle a été construite. C'était dans la rue des Alouettes. Bon, mais que tout ça a été bricolé, que c'était vraiment peu de choses. Or, quand on voit déjà la formidable puissance qu'était la maison Gaumont à ce moment-là. J'ai le nez plongé en ce moment dans des discussions de brevets entre Gaumont et ses concurrents américains et allemands en 1900, n'est-ce pas ? On brassait déjà énormément d'argent. D'autre part, ce qu'on sait du personnage de Léon Gaumont, dont on a très peu parlé jusqu'à présent malgré tout, n'est-ce pas ? D'un homme qui, en 1893, il avait 29 ans, a racheté le comptoir de photographie
Max Richard,
qui a lancé une affaire qui est devenue considérable, qui s'est lancé dans le cinéma, qui était un homme d'affaires, c'est donc un homme dur, un homme qui donc a brassé très vite de gros capitaux, et le fait... connaissant le personnage, enfin, et après, bon, toutes les légendes de Gaumont, impitoyable avec ses metteurs en scène, etc., le fait qu'il aurait donné comme ça à une femme, pour s'amuser, pour faire joujou, quelque chose qui, au contraire, était presque l'essence même de sa vie, puisque quand même, si vous vous dites non, dès 99, dès 1900, la partie film tenait dans les affaires de la société Gaumont par rapport à la photographie. Pourquoi aurait-il mis des capitaux ?
De l'avis de tous les gens qui l'ont connu, la partie film ne l'intéressait absolument pas. Ce qui l'intéressait, c'était de faire du film parlant, de chercher des effets de couleur. Vraiment, pour lui, c'était la démonstration.
Oui, mais il savait qu'un film coûtait de l'argent.
Oui, mais je crois qu'il n'y attachait aucune importance. D'ailleurs, metteurs en scène d'avant 14 me l'ont dit. Il avait non pas du mépris pour ses metteurs en scène, mais enfin, c'était ses ingénieurs qui comptaient. Les metteurs en scène, c'était de...
Oui, le metteur en scène, il fallait
juste
qu'il fasse
au-dessus de l'acteur.
Tant de mettre de pellicule à temps le mettre et on ne dépassait pas le forfait.
Moi, je ne suis pas étonné que, justement, il n'ait pas pris au sérieux ce département film, au contraire de Pathé, et qu'il l'ait confié comme une chose tout à fait négligeable à sa femme de confiance.
Oui, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'elle nous a dit tout à l'heure que c'était avec sa dot qu'elle a fait ce premier film. Avec les 50 000 francs de sa dot, ce qui est quand même surprenant dans une entreprise comme Gaumont.
Oui,
Andrés Bobada, oui, parlez-nous de Gaumont.
Il faut resituer ce personnage. Alors moi qui suis le contraire d'un historien, il faut resituer justement comme vous avez commencé à le faire, il faut faire le portrait de ce Léon Gaumont qui devait être un bonhomme pas très drôle. C'était un ingénieur, c'était un monsieur qui voulait gagner de l'argent, mais c'était surtout un ingénieur et un technicien. Et les gens de cette époque, pour eux, le cinéma, c'était la photographie de la vie. Et il a envoyé immédiatement partout dans le monde des opérateurs pour photographier la vie, pour restituer sur des écrans la vie, mais la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, etc.
Il a même fait, il a même fait lui-même l'opérateur d'actualité à l'occasion de voyages présidentiels.
Exactement. Et il est assez étonnant que cette petite bonne femme ou cette grande bonne femme, je ne sais pas la taille qu'elle avait, ait sur ces dimanches, puisqu'il paraît-il, il lui disait, je vous permets de vous servir des appareils à condition que mon courrier soit tapé et que vous soyez à 9h lundi matin, amusez-vous avec vos petits bricolages, que cette dame ait pris le contre-pied de ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire elle a fait le contraire de la vie, parce que faire naître les petits bébés dans les choux, c'est le contraire de la vie. Donc, à ce moment-là, elle prend un relief très particulier par rapport à la personnalité de Léon Gaumont. Et je crois que c'est l'histoire de la dot, ça n'a pas l'air d'être une blague, je ne sais pas. Vous qui connaissez mieux la question que moi.
Alice Guy va parler.
Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Je devais être au bureau à 8 heures, ouvrir, annoter, distribuer le courrier. J'avais alors licence de prendre l'omnibus à 4 chevaux qui, par la rue Lafayette, grimpait au but de Chaumont et employer au mieux le temps qui m'était dévolu. À 4h30, je devais être de retour rue Saint-Roch pour le courrier personnel, la signature, etc. Cela durait souvent jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. J'avais enfin la liberté de rentrer quai Malaquais pour y prendre quelques heures d'un repos que j'estimais bien mérité. En 1896, les syndicats n'existaient pas. La semaine était de 6 jours, parfois de 7. Les heures de présence, illimitées. Je me souviens d'un dimanche matin où Gaumont vint me prier de courir autour de notre jardin afin de mesurer la vitesse de la course grâce à un appareil de son invention. Je le répète, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la belle époque. À Belleville, à côté des ateliers de tirage, des travaux photographiques, on me concéda une terrasse désaffectée au sol bitumé, ce qui rendait impossible la plantation d'un vrai décor, couverte d'une verrière branlante et ouvrant sur un terrain vague. C'est dans ce palais que je fis mes premières armes. Un drap peint par un peintre éventailliste et fantaisiste du voisinage, un vague décor, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués ici et là autour de la porte Saint-Martin. Comme artiste, mes camarades, un bébé braillard, une mère inquiète bondissant à chaque instant dans le champ de l'objectif, et mon premier film, La fée aux choux, vit le jour.
Alors, qu'en pensez-vous, Jacques Deslandes, Francis Lacassin, Andrés Vobada? Francis Lacassin.
Oh, je pense que cette description doit être sincère. Enfin, je la prends pour sincère, en tout cas. Et comme je le disais à Jacques Deslandes, je crois que précisément Gaumont, n'attachant aucune importance à la production de films, ce qui l'intéressait, c'était de créer des appareils ou des procédés techniques, je ne suis pas étonné qu'il ait confié cette tâche négligeable à sa femme de confiance. Et qu'il ait aussi peu accordé de moyens, précisément tous les metteurs en scène, vous avez dû rencontrer autant que moi, Jacques, se plaignent et disent qu'ils avaient tous des budgets extrêmement réduits par rapport à ceux de la maison Pathé, donc je ne suis pas étonné qu'elle se soit débrouillée avec du bricolage, le peintre éventailliste. Maintenant, est-ce qu'elle a tourné ce film en 1900, c'est le grand problème, ou en 1896, il y a deux solutions. Ou bien elle se trompe, elle a l'attitude de beaucoup d'anciens, et c'est exact, je l'ai vérifié chez les gens de lettres en particulier, qui considèrent que leur premier livre, donc leur premier film chez cinéaste, c'est le premier film important, et que tout ce qui est avant ne compte pas. Ils l'ont d'ailleurs souvent oublié, leur inconscient leur a permis de l'oublier. Ou alors, il est possible qu'elle l'ait tourné en 1896, et que le film qui figure en 1900 soit un remake. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu un autre remake en 1902 sous le titre « Sage-femme de première classe », qui est beaucoup plus long.
Oui, mais Jacques certes, quand elle parle de ses passions aussi, enfin, elle parle toujours de la grande de 600 mètres, je crois.
Oui, la passion. Bon, oui,
oui. Elle en a une.
Il y en a une avant.
En 99, qui faisait, oui, 400 mètres. Mais là, quand même, pour la fée aux choux, il y a les catalogues Gaumont...
Il manque des numéros, vous savez, dans les catalogues.
Oui, je sais, mais j'ai eu la chance de les retrouver, et c'est quand même un peu bizarre. Enfin...
Non, mais Jacques Deslandes, vous avez la chance de les retrouver, mais ceux de quelle année? Parce que commençons à être précis. Les catalogues de quelle année avez-vous consulté pour savoir si, oui ou non, le numéro 370, par exemple, de la Fée aux Choux, est de 1899, de 96 ou de 1900?
C'est de 1900,
Oui, ça c'est le catalogue 1900,
oui.
Qui couvre apparemment la production Gaumont de 97 à 1900, avec dès 1897 des films de fiction.
Il y a même le déménagement à la cloche de bois.
Il y a il y a déjà les fameux films érotiques comme le coucher d'Yvette. Il y a des films, les petites comédies de l'époque, c'est-à-dire il y en a un qui s'appelle Une nuit agitée, le monsieur qui est dans son lit, et puis un espèce de gros cafard en carton. Je l'ai vu à Londres, ce film, qui descend au bout d'un fil et puis qui vient réveiller et déranger le dormeur. Bataille à coups de polochon contre le cafard. Enfin, c'est évidemment. Faut pas prononcer le mot enfantin, je crois, parce que on a trop tendance là aussi à juger les primitifs du cinéma. Primitifs, ça prend tout de suite un ton péjoratif. Or, c'est toute une culture qui ressort là. Bon, la Fée aux Choux, d'accord, c'est de l'esthétique de carte postale, mais la carte postale, c'est une vieille tradition populaire. C'est tout ça est. Et dans le texte que l'on vient d'entendre de Delphine Seyrig, d'Alice Guy sur ses débuts, et je reviens encore, je m'en excuse, sur cette volonté de faire pauvre au départ. Elle me dit, on m'a donné une petite terrasse, etc.
Je suis convaincu que c'est vrai.
Bon, non, mais écoutez, là, je suis désolé, j'évoquais tout à l'heure l'atelier, le studio de la rue des Alouettes, n'est-ce pas, qui est devenu la grande maison Gaumont et. Les studios de télévision actuels, n'est-ce pas? Bon, eh bien, dans le cadastre, on trouve un permis de construction en 1897 pour M. Léon Gaumont, pour la construction de cette première ébauche de l'usine Gaumont, n'est-ce pas, et les studios Gaumont, avec très précisément la description d'un atelier pour la fabrication d'appareils photographiques et cinématographiques avec terrasse pour photographie. Alors quelque chose qui vient d'être construit, pourquoi est-ce qu'immédiatement ça serait, elle dit bon, le toit ne tenait plus, etc. C'est toujours j'ai fait ça avec trois bouts de ficelle, moi j'y crois pas. Je vois Alice Guy, une femme beaucoup plus dans le style Gaumont, et c'est sans doute pour ça qu'ils se sont bien entendus, une femme qui, nous l'oublions pas, d'abord était excusez-moi, fort jolie, on n'a pas encore dit, qui d'autre part devait être une femme de tête et aussi une redoutable femme d'affaires.
En tout cas,
Andrés Vobada, oui, je crois que vous avez une opinion différente.
Voit la liste pas la liste de tous ces films, mais quand on les classe, elle avait un cerveau remarquablement organisé parce qu'elle a touché à tous les genres. Oublions cette histoire-là des petits bébés qui naissent dans les choux que personne n'a jamais vu. Et je me demande même si ça a jamais existé.
Ah oui, parce qu'il y a des photographes.
Mais qui l'a vu? Personne.
Il y a des gens qui ont figuré.
Philippe Hénault m'a dit qu'il l'avait vu en 1950 à Paris.
Jean-Marie aussi.
Avenue de Messine.
Des gens l'ont vu Avenue de Messine. Je connais donc une dame qui avait figuré dedans.
Alors, il y a une première série qui est la mauvaise soupe, les aventures du charbonnier, le tonnelier, chanteur des cours, l'angélus, les dangers de l'alcoolisme, pauvre absinthe, ou bonne absinthe. Bon, ça c'est une première série. Puis après, il passe à un genre, une monnaie de lapin, le vieux beau et le petit retin, les fredaines de Pierrette, Vénus et Adonis, charmant froufrou en cabinet particulier.
Vous oubliez, j'ai un hanneton dans mon pantalon.
Ah ben,
ça figure sur sa liste.
Je sais pas. Oui. Et puis après, on passe à une autre série, l'assassinat du Cornillier de Lyon, etc., etc. C'est tout de même une dame assez bien organisée, une dame qui arrive à inventer d'elle-même à peu près presque tous les genres, tous les styles, et en plus, qui apporte presque un style à cette maison Gaumont, qui... on ne va pas faire l'histoire de la maison Gaumont ce soir, mais cette somme d'individualité qui vont après rôder, parce qu'elle va amener M. Feuillade, parce que c'est elle qui a embauché M. Feuillade,
oui.
Et elle n'a pas eu peur de M. Feuillade. D'après
Francis Lacassin, je crois quand même c'est important. Oui. Elle a comme assistant Louis Feuillade. On commence à parler dans le cinéma de Louis Feuillade parce qu'il est l'assistant d'Alice.
Non seulement elle a eu comme assistant Louis Feuillade, mais c'est elle qui l'a recommandé à Gaumont pour lui succéder. Gaumont songeait, c'était classique, à débaucher quelqu'un de la maison Pathé. Il pensait à Capellani. Et elle lui a dit, mais c'est ridicule, vous avez avec Feuillade quelqu'un qui peut très bien me remplacer et qui en plus a beaucoup d'imagination. Ce qui était, je crois, la qualité de Feuillade. Et donc ça prouve tout de même qu'elle avait un certain flair. Elle avait constitué une équipe assez complète déjà à son départ tout de même. Il y avait déjà des... Lorsqu'elle est partie en 1907, on voyait déjà poindre des catégories... Il est indéniable que c'était une femme de caractère. D'ailleurs, Feuillade lui-même a confirmé que c'était elle qui l'avait engagé, qui l'avait poussé à réaliser. Il n'y tenait pas. Il voulait seulement...
Il écrivait des synopsis.
C'est ça, il écrivait des synopsis et il n'avait pas très confiance dans le cinéma, à tel point qu'il a proposé un ami chômeur qui était chansonnier, qui était Étienne Arnaud, pour réaliser son premier film. C'est elle qui l'a persuadé de réaliser.
Moi, je voudrais revenir sur un point évoqué par Jacques Deslandes, qui était le côté enfantin des premiers films. Je trouve dommage qu'on parle toujours du côté enfantin des premiers films, qui en fait sont certainement charmants. Je vois pas ce qu'ils ont d'enfantin.
Non, mais Jacques s'en défend, justement.
On le dit toujours pour s'en défendre.
C'est ça, on dit primitif du cinéma, c'est naïf. Quand on parle d'un film de Méliès, n'est-ce pas, on dit toujours c'est naïf. Et on oublie que bon, ben c'est ça plonge dans.
C'est pas plus naïf que nous.
Non. Écoutez, il n'y a qu'à revoir des films qui ont été tournés il y a 30 ans.
De toute façon, il ne faut pas oublier que c'est ce qu'attendait le public de l'époque.
Mais bien sûr.
Le cinéma était destiné à un public inculte, c'est-à-dire les gens qui ne voulaient pas...
Ah non, pas inculte. Le cinéma, je crois, a pris la relève, non pas du théâtre, mais du music-hall, des spectacles forains. Et là, ça n'est pas de l'inculture, je suis désolé. Culture populaire avec un P majuscule à
oui,
populaire.
Culture populaire, d'accord. Mais enfin, pas cultivée au sens bourgeois du terme culture. Donc, c'est des gens qui aimaient en général aller au cinéma pour se distraire.
Qui aimaient le spectacle.
Qui aimaient le spectacle. Donc, on cherchait les effets. Les effets avaient beaucoup plus d'importance que la, j'ose pas dire, la psychologie, parce qu'il y en avait très peu. Et au fond, ça répondait au public du cinéma. À mesure que le niveau du public s'est élevé, il est évident que celui des films s'est élevé aussi.
Écoutez, aussi, quand on pense à La Passion du Christ, 1906, mars 1906, 680 mètres, fait en 25 tableaux, si vous avez vu, comme je l'ai vu, parce que c'est, tout le monde peut le voir, les photos de ce film, nous n'avons pas du tout affaire à un cinéma style théâtre naïf, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une prise de vue de la croix.
Oui, alors il y a deux choses qui ont joué, si l'on
Francis
peut dire,
Lacassin.
Et qui ont joué en faveur d'un certain style de la maison Gaumont, c'est que M. Gaumont était assez avare, n'aimait pas beaucoup qu'on construise des décors, donc la maison Gaumont était spécialisée, ça c'était déjà Jassé qui l'avait remarqué dans une étude publiée en 1913, c'était spécialisée dans le film d'extérieur, enfin beaucoup de films d'extérieur. Et en plus, il faut bien dire, elle était en mauvais terme, je crois, avec le chef des ateliers de fabrication, qui était un monsieur Decaux, sans rapport avec l'historien actuel, bien entendu. Et ce qui fait qu'elle a été... tout comme Feuillade, d'ailleurs, obligée de prendre en quelque sorte le taureau par les cornes et de trouver des moyens d'innover parce qu'elle n'avait pas les moyens nécessaires. Et ce qui explique que si elle avait fait cette vie du Christ avec les décors qu'on aurait bien voulu lui donner, elle aurait été peut-être plate, conventionnelle, etc.
Alice Guy, par Delphine Seyrig.
C'est là, grâce à la bonne volonté de mon petit personnel, aux conseils et leçons de Frédéric Delay, conseiller technique des établissements Gaumont et auteur d'excellents bouquins sur la photographie artistique, à l'expérience acquise au jour le jour, au hasard, à la chance, que nous découvrîmes 100 petits trucs tels que films tournés à l'envers, permettant de prendre une maison s'écroulant et se reconstruisant comme par enchantement. Un client gourmand trouvant chez le pâtissier sa note trop élevée et rendant intacts les gâteaux engloutis. Le ralentissement, l'accélération du tour de manivelle transformant de paisibles passants en êtres pris de frénésie ou au contraire en dormeurs réveillés. Les arrêts permettant de déplacer un objet qui, à la projection, semblait animé d'une vie surnaturelle, emplissant de stupeur un archéologue dont la précieuse momie jouait aux quatre coins de son laboratoire. Je n'aurai, je pense, aucun plaisir à revoir un de mes premiers films, mais mes lecteurs, si j'en ai, doivent se rendre compte des conditions dans lesquelles nous travaillons. les appareils du début, avec leur magasin extérieur mal ajusté, les modes d'entraînement du film pas encore au point, les trépieds qui étaient ceux employés pour la photographie ordinaire et qui s'enfonçaient dans la terre meuble de notre jardin, ne leur assuraient pas une très grande stabilité. Nous ne disposions que d'un objectif, la traction de la bande se faisait grâce à une manivelle extérieure fonctionnant à la main, le cadre garni de velours retenait des poussières qui rayaient l'émulsion. Les maisons concurrentes, qui naissaient rapidement, s'emparaient de nos découvertes dès que nous les faisions. Zeka, le seul collaborateur qui resta environ 2 semaines avec moi avant de joindre Pathé, tourna les méfaits d'une tête de veau, film qui me fut faussement attribué par la suite.
Maintenant, nous allons entendre M. Toscan Duplantier, directeur de la société Gaumont, actuellement.
C'est très complexe, parce que vous savez qu'il y a quand même un problème technique, par exemple, c'est que les films étaient dans ce qu'on appelle des copies flammes, et qu'il faut beaucoup hésiter à les utiliser aujourd'hui, d'abord parce qu'on peut les abîmer, il faut donc les contretyper, que c'est un investissement très important. S'il fallait contretyper tout ce que Gaumont en stocke, il faudrait dépenser plusieurs milliards d'anciens francs, sans qu'on sache très bien où est le revenu. Parce que mettre à jour notre histoire, c'est une chose. La commercialisation de cette histoire, c'en est une autre. Ils sont une société, dans un genre un peu particulier, c'est des capitalistes chargés de distribuer des dividendes et des profits. Et nous devons y penser assez souvent.
La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, par exemple, vous savez que dans la période entre la fondation de la Maison Gaumont par M. Léon Gaumont et le moment où Alice Guy, notre réalisatrice en question, part aux États-Unis, elle a fait dans la Maison Gaumont presque tous les films.
Je ne sais rien de ce qui concerne Alice Guy, hein, soyons clairs. D'abord parce que c'est vrai que la partie historique de la Maison est celle sur laquelle, j'allais dire... C'est peut-être la plus importante, peut-être la plus intéressante. C'est probablement dans les décisions à prendre lorsqu'on arrive à la direction de l'entreprise. C'est pas celles qui sont immédiatement nécessaires pour la vie quotidienne. Mon idée était celle-ci. Lorsque les actualités ont été faites semaine par semaine, au moment où on les faisait, on faisait une petite fiche, on marquait sujet, réalisateur, puis on mettait la petite fiche dans une boîte, et ces boîtes-là, elles sont toujours là. Bon. Le problème, c'est que pour les 3/4 ou les 4/5 d'entre elles, on ne les a pas revues depuis. Il y a les documents célèbres, ceux qu'on ressort souvent, et qui sont commercialisés. Il y a moyen d'acheter des extraits d'actualité Gaumont. C'est pas simple, il faut prendre son temps. Et séduire la gardienne du foyer, la vestale du foyer. Mais on peut le faire.
Mais pourquoi débloquez-vous des crédits pour les actualités et non pas pour le film de fiction, pour par exemple fouiller dans les 20 000 bandes qui se trouvent aux archives Gaumont de films de fiction?
Mais c'est pas du tout exclu.
Oui, parce que là nous avons une question. Quand nous allons voir M. Svoboda et que nous apprenons qu'effectivement une partie d'un certain catalogue a été fait et qu'il nous le montre, et qu'il y a peut-être 200 titres sur, si je comprends bien, à peu près 20 000 ou 40 000 bandes qui sont là. Qu'est-ce que vous pensez faire de ce fonds très riche et qui n'est pas d'actualité?
Il faut bien le dire, il faut changer les moyens. Je veux dire, jusqu'à maintenant, tout ça était artisanal.
Bon.
Oui, d'ailleurs, des gens dévoués et passionnés. Oui, mais là, les sommes à investir ne sont pas artisanales, sont industrielles. Donc il faut bien adapter les moyens à l'investissement.
Je vais vous dire, donc Alice Guy va... On va parler d'elle.
Oui.
Et c'est absolument intolérable, insupportable,
oui,
et presque bête,
oui,
de ne pas voir ces films.
Écoutez, voilà un beau sujet de méditation. Ce que je dis n'est pas une forme d'engagement, mais ça peut en tenir lieu. Il est évident que nous allons... nous pencher sur la fiction comme on s'est penché sur l'actualité.
Monsieur Svoboda, vous êtes ici, vous venez d'entendre Monsieur Toscan Duplantier. Que pensez-vous de ce qu'il souhaite?
Je pense qu'il est là pour nous encourager à faire un joli travail, Mais c'est, on se trouve, n'est-ce pas, devant une forêt vierge, devant une mine d'or, une mine de platine, qui, tant qu'elle n'est pas défrichée, est comptée pour zéro. Comment s'y prendre ?
Mais alors, où ils sont ces films, d'après vous ?
Ils sont tous sauvegardés, ils sont dans des boîtes. Bon, la question importante est de ne pas ouvrir ces boîtes. Chaque fois qu'on ouvre une boîte et qu'on ne s'en occupe pas immédiatement, c'est une matière extrêmement périssable. Le film est pratiquement... il s'effrite, il se rétrécit, il se colle, il est mort. Parce qu'il faut l'étendre comme on étend du linge, il faut le sécher, il faut le retirer image par image parce qu'il a rétréci, parce qu'il n'est pas au pas des... Il a changé de pas, l'écartement des perforations a changé, etc., etc. Bon. C'est cette histoire de conservation des films est un problème qui dépasse la compréhension des gens, en ce sens, je n'arrête pas de me faire insulter par de braves intellectuels qui viennent me dire « Mais enfin, comment, c'est pas possible quand on a un trésor pareil, y a qu'à. » Eh bien, y a qu'à, c'est une entreprise inimaginable. Est-ce qu'il s'agit de mettre 50 ou 60 ou 70 personnes pendant peu de temps ? Est-ce qu'il s'agit d'en mettre 5 pendant 15 ans ? Dans quel ordre faut-il les prendre ? Faut-il porter un jugement ? Y a-t-il un ordre d'urgence ? C'est un problème vraiment d'une telle envergure, parce que c'est un peu la restauration de la cathédrale de Chartres, cette histoire-là. Par quel bout commence-t-on ? Or, maintenant, nous avons une direction, comme vous venez d'entendre M. Toscan Duplantier, qui me dit « on va s'en occuper ». C'est la première fois que j'entends...
C'était l'enthousiasme.
Oui, mais c'est la première fois que j'entends une parole aussi encourageante, parce que jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on aborde ces problèmes-là, on se heurte à un problème capital, et que je comprends très bien, avec les difficultés de ce métier qui est un art, et c'est en même temps une industrie qui doit faire vivre les gens. Qui peut entretenir un patrimoine pareil ?
André Svoboda, oui, mais tout à l'heure vous dites, qui seraient les personnes, 100, 10, 20 ou un intellectuel ? Alors je vous dis ce que M. Toscan Duplantier nous a dit, par exemple. Il va mettre deux personnes, deux journalistes connus parisiens, sur le dépouillement des archives d'actualité de la Maison Gaumont. Qu'est-ce que vous penseriez d'une personne ou de deux, avec leur jugement, vous disiez, est-ce qu'ils auront un jugement, une subjectivité, sur les archives fiction de la Maison Gaumont, par exemple les films d'Alice Guy ?
Attention, nous parlons de deux choses différentes. Est-ce qu'on parle des documents d'actualité ou est-ce qu'on parle des films de fiction ?
Non, je voulais simplement dire, Monsieur Toscan Duplantier nous dit sur les documents d'actualité, j'ai déjà pour idée de mettre deux journalistes très connus sur cette question. Et moi, je vous pose à vous, André Svoboda, la question, que feriez-vous si alors un intellectuel, par exemple, ou une intellectuelle, est chargé subjectivement de regarder ces bandes et de retrouver les films d'Alice Guy ?
On ne peut pas les regarder, c'est ça le drame. C'est qu'on ne peut pas les regarder. Il est impossible de les regarder. On ouvre la boîte. C'est extrêmement compliqué parce que vous ouvrez cette boîte qui, comme dit Langlois, ce qu'il y a de bien avec ces boîtes, c'est qu'elles rouillent. Et ça a l'air d'une blague. Mais Langlois est contre la boîte en plastique et ça m'a beaucoup étonné quand il m'a dit ça. Et au fond, c'est lui qui a raison. La boîte rouille. Et elle se scelle. Il ne faut pas qu'elle rouille trop, parce que si elle rouille trop, il y a un petit trou, et alors la boîte, le contenu de la boîte disparaît. Bon. Mais une fois que vous avez ouvert cette boîte, ça entraîne une succession de travaux techniques tels qu'il faut que vous vous précipitiez là-dessus. Alors, dans quel ordre va-t-on prendre ça ? Est-ce qu'on va s'occuper du chanteur de cour, de Vénus et Adonis ? Est-ce qu'on va commencer par le petit coupeur de bois vert volé par les bohémiens, etc., etc. Vous comprenez, c'est un travail absolument inimaginable. C'est un plan quinquennal. Non,
Et comment se fait-il que personne jusqu'à présent n'ait pensé, n'ait eu envie, n'ait désiré
Mais tout le monde a envie. Mais tout le monde a envie. Tout le monde est passionné par ça. Ceux qui sont les plus passionnés, d'ailleurs, ce sont les auteurs que vous avez à côté de nous, qui eux ne souhaitent qu'une chose, c'est de les voir. Et moi, je souhaite qu'une chose, c'est de les leur montrer. Et je vais même plus loin. Ces films que personne n'a jamais vus doivent être dans nos boîtes quelque part. Maintenant, ce quelque part où grâce au ciel, on n'y a pas touché encore. Parce que dans toutes les péripéties de cette société Gaumont, si la cinémathèque est restée intacte, c'est parce qu'on l'a toujours oubliée. Parce que d'autres cinémathèques, le drame de certaines cinémathèques, justement, c'est qu'on a voulu faire de la place et que des gens ont choisi. Et en choisissant, ils ont, d'après les goûts différents des différentes époques, ils ont éliminé ce qui ne leur plaisait pas. Alors ça, c'est la cinémathèque Gaumont est très riche. Parce que tout le monde a oublié qu'elle existait. C'est pour ça que maintenant, elle est restée intégrale.
C'est la vallée des rois.
Exactement.
Mais je crois que...
Kermadec, vous êtes cinéaste, vous avez pris des notes là pendant toute la discussion et vous avez lu l'autobiographie d'Alice Guy. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Je suis un peu effondrée. Je suis un peu effondrée de tout ce que j'ai entendu parce que j'ai entendu des choses très contradictoires et je crois que vraiment, je reste persuadée, je dois dire, je l'étais déjà avant d'entendre cette conversation. Mais je reste persuadée que tout le problème est qu'Alice Guy était une femme, parce que finalement on a dit beaucoup de choses ce soir, mais personne ne doute de la sincérité de cette autobiographie, j'ai l'impression, parmi les historiens qui sont là. Alors, la question que je me pose, c'est ça, est-ce que ce n'est pas toujours le même problème qui se passe avec les femmes qui font quelque chose? On accepte qu'elles fassent quelque chose, qu'elles aient fait quelque chose, personne n'en doute. Mais il y a le fameux... Il ne faudrait pas qu'elle exagère. Et je crois que c'est ça l'histoire d'Alice Guy. Il ne faudrait pas qu'elle exagère. Or moi, si j'ai bien écouté ce que vous avez dit tous, et si j'ai bien lu ce qu'elle a écrit, il me semble qu'elle a eu, elle, l'idée de la mise en scène au cinéma. C'est-à-dire l'idée de la fiction. Et il me semble que c'est une idée tellement énorme, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui aime le cinéma, tel qu'il est devenu, il me semble que c'est une idée tellement énorme qu'elle méritait un autre sort. Alors moi, j'ai pas vu ces films, mais ce que j'entends m'effraie, parce que j'entends, oui, les premiers films, c'était enfantin, La Fée aux Choux, alors Henri Langlois ne l'a pas vu, parce qu'évidemment, La Fée aux Choux, ça fait pas envie. Alors après, c'était un peu porno, c'était une histoire dans un hanneton, je crois, dans un pantalon, alors ça, c'est pas très convenable. Et puis d'un côté, elle était jolie et élégante sur le plateau, mais alors est-ce qu'elle était vraiment sur le plateau? Et tout un tas de choses qui n'ont finalement rien à voir avec cette idée essentielle, l'idée de la fiction au cinéma. Ou alors, je n'ai rien compris, ce qui est possible. Mais il me semble que ça, c'est une idée énorme et que c'est de ça qu'il faut parler.
Oui, tout à fait d'accord. Je crois que j'ai abondé dans votre sens parce que moi...
Par moment. Alors,
mon
image, ça.
Mon image d'Alice Guy, et je la défendrai mordicus jusqu'à la fin, pas seulement de cette émission, mais de ma vie d'historien de cinéma, c'est donc une femme qui savait fort bien ce qu'elle voulait. Et tout à l'heure, j'ai failli réagir, sursauter, quand on a dit que la spécialité de la maison Gaumont, c'était de tourner dans des décors naturels, etc. Les décorateurs de chez Gaumont, tout de même. Oui, Ménessier,
oui,
Benjamin Carré, mon cher Jasset, qui a certainement commencé comme décorateur. C'était pas de petits décorateurs, c'était des décorateurs qui sortaient des grandes maisons de décoration de l'époque, de chez Jambon, de Landolph.
Oui, mais vous la défendez tous, chacun à votre tour, et par bribes. Mais dans l'ensemble, vous ne la défendez pas. Alors, je pose la question. Je comprends très bien que dans toutes les boîtes dont vous parlez, il y a des trésors que pour les raisons que vous avez expliquées, on ne peut pas ressortir. Mais la sortie des usines Lumière, elle a couru le monde entier. Or, c'était aussi compliqué de la contretyper, etc. Bon, alors je demande, pourquoi le premier film de fiction, si c'est vraiment Alice Guy qui l'a fait, pourquoi n'a-t-il pas couru le monde comme la sortie des usines Lumière ?
Mais nous ne sommes pas du tout sûrs que c'est le premier
Francis
film de
Lacassin.
Fiction. Nous ne sommes pas du tout sûrs qu'elle ait fait le premier film de fiction.
Alors, c'est ce qu'elle dit. Alors, il faut mettre en doute ce qu'elle dit.
Est-elle menteuse ?
Elle est menteuse, mais elle a une vue fragmentaire, vous comprenez.
Fragmentaire par rapport aux États-Unis.
Non, mais par rapport à toute l'histoire du cinéma. Combien d'anciens, par exemple, la fille d'Étienne Arnaud m'a dit que son père avait construit les premiers studios américains en 1912. Enfin, il y en avait eu d'autres avant.
Oui, mais enfin, c'est
Joey Hamann m'a dit qu'il avait tourné le premier western de l'histoire du cinéma. On avait tourné avant lui The Great Train.
Et regardez les souvenirs de Méliès.
Mais
aussi.
Oui, c'est pareil. Tous ont cette tendance parce qu'ils jugent d'après leurs souvenirs et n'avaient pas une vue d'ensemble à l'époque. L'historien, lui, a une vue d'ensemble.
Mais enfin, il semble en tout cas que dans la maison Gaumont, elle ait été la première.
Puisque ah oui, ce fameux petit... mais oui, bon,
alors,
bien sûr.
Comment expliquez-vous que dans cette vénérable maison Gaumont, personne ne la connaisse, que son souvenir ne soit pas du tout... enfin, moi, j'ai pas tellement le culte des anciens, mais quand même, bon, mais le nom de Gaumont est si célèbre que...
Bon, alors, je vais vous dire, est-ce que vous connaissez Roméo Bosetti?
Ah, pas du tout.
Est-ce que vous connaissez Jacques Roulet-Plessis?
Bon, mais
Jean Durand?
Est-ce qu'ils ont été aussi importants chez Gaumont, par exemple?
Oui. Pas Roulet-Plessis, mais Bosetti, oui. Jean Durand, oui.
Jean Durand, qui est un metteur en scène extraordinaire.
Ce n'est pas une conspiration contre Alice Guy, c'est une conspiration contre tous les premiers pionniers, parce qu'ils ont travaillé trop tôt et se sont retirés trop tôt. Voilà. À une époque où il n'y avait pas d'archives, où on ne publiait pas les noms des metteurs en scène.
Et que
si Alice Guy avait débuté 10 ans après, on se souviendrait beaucoup plus d'elle.
Et certains vous parliez de la sortie des usines Lumière.
Enfin, à l'époque, excusez-moi, mais à l'époque, Alice Guy devait paraître comme une espèce d'hippopotame. C'était un monstre, cette femme, d'avoir fait ce qu'elle avait fait. Et on l'a complètement oublié. C'est ça que je n'arrive pas, moi qui ne suis pas historienne,
à comprendre. Moi, ce qui me frappe dans l'histoire d'Alice Guy, c'est qu'au contraire, c'est passé tout simplement. Et le fait qu'elle était femme metteur en scène à ce moment-là, et pas.
C'est passé tout simplement. Non, mais pas dans l'histoire.
Faire ça avec des petits bouts de tissu, du tout.
Mais Méliès aussi veut bricoler.
Non, elle avait des capitaux, elle a fait des films, et c'est passé comme une lettre à la poste.
Mais Méliès...
Mais pourquoi parle-t-on de Méliès?
Parce que Méliès a duré jusqu'en 1913, et Alice Guy a disparu en 1907, avant que le cinéma soit vraiment organisé.
Plus tard que ça. Elle
n'a pas disparu.
Aux États-Unis, elle a tourné beaucoup de films.
Ça, c'est autre chose.
Comment
c'est autre
chose? Comment c'est pas l'histoire du cinéma?
Vous
ne savez pas que c'était une histoire nationale, l'histoire du cinéma?
Si, non, mais ça, la période américaine, si vous voulez, nous en parlerons, mais c'est d'autres problèmes. Mais dans la période du cinéma français, c'est parce qu'elle s'est retirée trop tôt. C'est comme Bosetti qui a terminé sa carrière en 1914, qui a eu une carrière aussi importante que celle d'Alice Guy.
Mais il faut parler de l'Amérique et il faut l'en parler en disant qu'elle est partie aux États-Unis parce qu'elle a épousé Herbert Blacher et qu'elle a fondé un studio qui était la Solax aux États-Unis et que de 1907 à 1920, elle y est restée. Que s'est-il passé après? Elle a divorcé et elle a cessé de faire du cinéma. Alice Guy va encore nous parler par la voix de Delphine Seyrig.
L'Amérique, dit-on, reprend toujours ce qu'elle vous a donné. Complètement découragée, je résolus de rentrer en France avec mes enfants. Après quelques semaines de repos, laissant mes enfants auprès de leur grand-mère, je frappai à la porte des quelques studios qui, bien entendu, se fermèrent devant moi. Je me rendis alors à Nice, où j'avais des amis banquiers ayant des intérêts dans les studios de la Victorine. Ils me demandèrent de leur donner mon avis sur leurs installations. Je trouvais l'éclairage médiocre, les décors éloignés demandaient trop de temps pour le transport. Enfin, les clients désertaient la Côte d'Azur pour les studios allemands, malgré les avantages de la mer voisine et du beau climat. Pourquoi ? Ils me demandèrent de faire un voyage en Angleterre, puisque je connaissais la langue, et de tâcher de découvrir la cause de cette défection. J'acceptai. Je rencontrai à Londres plusieurs Américains que je connaissais et qui s'y étaient installés. Il me revint qu'à la Victorine, ils ne pouvaient obtenir un simple fiacre, un sandwich, un bock, sans avoir à payer un surplus à un intermédiaire. Les décors n'étaient jamais prêts au moment voulu. La figuration était souvent exigeante. On employait beaucoup de Russes blancs qui avaient encore une garde-robe décente, mais qui exigeaient des égards. À mon retour, on m'offrit la direction des studios si je voulais verser une somme importante. Hélas, je n'avais plus rien. Ou encore la direction de la figuration, à 800 francs par mois. Je refusais. Grâce à une amie, je réussis à collaborer à une revue féminine. J'écrivis plusieurs petits romans, contes pour enfants, traductions, etc. Est-ce un échec, une réussite? Je ne sais. J'ai vécu 28 ans d'une vie intensément intéressante. Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie, je me souviens des paroles de Roosevelt. Il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais essayé.
Alors
Francis
Lacassin.
Il faut arriver à une conclusion, c'est qu'il n'y a pas eu une conspiration du silence contre Alice Guy parce qu'elle était femme.
Elle était effacée et discrète comme femme.
C'est parce que...
Elle s'effaçait devant les hommes.
C'est tous les anciens d'avant 14 ont été oubliés. Si on se souvient d'eux, c'est tout à fait par hasard. Si Feuillat n'avait pas fait Fantômas, je suis persuadé qu'on l'aurait oublié. C'est parce qu'il a fait Fantômas et à partir de Fantômas. Mais il y a eu des gens aussi importants qu'Alice Guy dont on ne parle pas dans les histoires du cinéma, enfin les premières, je n'accuse personne, surtout pas le monsieur qui est en face de moi, mais dont on ne parle pas et c'est un scandale. Si vous prenez par exemple l'histoire du cinéma de Sadoul, qui est la première en date, le premier effort sérieux pour envisager l'histoire du cinéma sous un angle presque universitaire, eh bien, Joé Aman est aussi maltraité qu'Alice Guy. On en parle encore moins. Il y a juste une petite note en bas de page.
Oui, mais alors là, moi, je ne peux pas discuter de ça parce que je ne connais pas les gens dont vous parlez. Donc, je ne peux pas mesurer leur importance par rapport à elles.
Parce que les documents écrits qui relataient leur activité n'existaient pas, pratiquement.
Non, enfin, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, moi j'ai essayé d'esquisser ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je trouve qu'elle a cet immense mérite, c'est d'avoir inventé le film de fiction. Ça, on devrait lui... Si on a le culte de la personnalité, la Maison Gaumont devrait lui dresser une statue.
La fée aux choux, c'est un monument.
Des petites lampes. Cette fée aux choux, ça doit être une idiotie.
Non, mais c'est l'idée qui est un monument. C'est l'idée.
Je ne sais pas.
Or, ça, je crois que les hommes n'acceptent pas que les femmes aient des idées.
On ne sait pas.
Liliane de Kermadec.
Oui, c'est ça. Je disais que les hommes n'acceptent pas que les femmes aient l'idée de quelque chose. Qu'elles le fassent, oui, pas qu'elles aient l'idée.
Mais ce qu'il faut que vous vous replaciez, c'est chez les gens de cette époque.
Alors là, du point de vue historique.
Qui allait au studio comme le bon ouvrier va à l'établi et qui rabote sa planche et qui fait une très jolie porte. Et tu vois, une fois qu'il a fait sa porte, il a fait sa porte. Parce que quand on voit ce travail, qui est un travail absolument impeccable, mais même du point de vue technique, du point de vue photographique, etc., mais jamais il n'avait eu l'idée, certainement à l'époque, qu'on parle d'eux. Ils faisaient leur travail comme n'importe qui. Je crois qu'au fond, c'est ça la vraie.
Mais elle a fait aussi beaucoup d'inventions techniques, d'après ce qu'elle raconte.
Oui,
aussi, de surimpression,
oui,
de fondu, de choses comme ça.
Oui, mais ces gens-là n'avaient absolument aucune idée de la publicité qu'on fait maintenant à n'importe qui.
Exactement comme les gens qui sculptaient les statues des cathédrales.
Exactement. Sur la cathédrale de Chartres, il n'y a pas une petite inscription. J'ai fait la tête de monsieur machin.
Mais enfin, les cathédrales ne sont pas signées par une personne non plus.
Mais oui, mais ça y ressemble un peu, parce que tous ces gens-là travaillaient très sagement et très consciencieusement et ne croyaient pas, et surtout qu'on ne vous raconte pas l'histoire, on n'en parle pas parce que c'est une femme, c'est pas
vrai.
Parce qu'il y en a 10, il y a 10 metteurs en scène de son importance.
Non, puisque c'est elle qui a eu cette fameuse idée, il n'y en a pas 10 autres.
Mais ils travaillaient ensemble.
Francis Lacassin, là, nous étions partis un petit peu sur la période américaine d'Alice Guy, et puis on l'a encore une fois un peu passé. Vous la connaissez beaucoup mieux que moi.
Si vous voulez.
Mais toutes les affaires qu'elle a montées là-bas, en fait.
Ne croyez pas qu'on devrait quand même insister sur un point, c'est qu'elle a été la première femme, par contre, à tourner des films parlants.
Ah, le chronophone.
Là, c'est indiscutable, par contre. Et c'est le point qui ne semble pas vous intéresser.
Mais, parce que l'autre est encore plus grave.
Non, pas du tout. Mais vous savez qu'à partir de 1900, Gaumont, qui est vraiment. Contrairement à Pathé, qui était un pionnier dans le domaine commercial, Gaumont, qui attachait beaucoup d'importance à l'évolution technique du cinéma, était le premier à concevoir le film parlant, ce qui était impensable. Bon, c'est le système qu'il a appelé chronophone, rouleau de cire, synchronisé avec une image, l'image du monsieur ou de la dame qui parlait. Et il est indéniable que c'est Alice Guy qui est la première à tourner les premiers chronophones.
Alors, c'est d'autant plus paradoxal, tout ce que nous savons d'elle... Cet oubli, cette espèce
ça
de silence.
Ça, nous les avons retrouvés. Ça, nous en avons retrouvé quelques-uns. Parce qu'on a retrouvé
une centaine.
Mais c'est significatif aussi qu'elle considère son travail comme un échec. ce qu'elle dit dans son autobiographie, car en fait, elle s'est effacée.
Elle
s'est effacée derrière son mari, et je crois que c'est ça son
échec. En Amérique, mais pas en France.
En Amérique, oui, justement, à la fin de son
mandat. Elle est partie en triomphe, au contraire.
Non, mais c'est tout de même toujours étonnant. Les femmes n'ont pas de génie, les femmes n'ont rien inventé, etc. Et il y a une femme qui a découvert un peu le cinéma, et nous nous en apercevons, et puis il y a un silence qui se fait autour d'elle. Et même vous qui l'aimez bien, j'ai l'impression...
Oui, on l'adore.
Il y a une espèce de...
C'est un personnage très important pour nous.
Moi, je crois qu'il faut parler de la tendresse. C'est le moment où on a dit qu'Alice Guy était une femme. Elle était mariée à Herbert Blacher. Elle a une fille, Simone Bolton Blacher, à qui nous avons téléphoné aux États-Unis pour nous parler de sa mère. Et avant, nous avons été demandés au fils de Léon Gaumont, Louis Gaumont, comment il se rappelait Alice Guy, metteur en scène.
Monsieur Louis Gaumont, est-ce que vous avez connu Alice Guy?
J'ai très bien connu Alice Guy. Et je dois dire qu'elle a même été à la Maison Gaumont avant moi, puisqu'elle était la secrétaire de mon père en 1898.
Et même avant, je crois.
Non, c'est à peu près à cette époque-là qu'elle est rentrée. Et d'ailleurs, je peux citer une petite anecdote amusante. Quand elle s'était présentée comme secrétaire à mon père, mon père lui avait dit « Mais vous êtes bien jeune, mademoiselle, le poste est important. » Alors elle a répondu à mon père « Eh bien, monsieur, vous savez, ça me passera. » Et comme mon père a trouvé que c'était une fille intelligente et spirituelle, il l'a conservée comme secrétaire. Et il lui a fait la plus entière confiance, et c'est ainsi qu'elle a proposé à mon père de réaliser des petits films sur des scénarios de son cru. Et elle a réalisé un premier film qui s'appelait « La feu aux choux ». C'était évidemment un scénario extrêmement simple, un film très court.
Est-ce que vous l'avez vu ?
Non, je dois dire que je n'ai pas vu ce film. J'ai essayé de le rechercher en vain, mais malheureusement il a disparu des archives de la Maison Gaumont, comme beaucoup de choses. Enfin bref, Alice Guy est donc restée à la Société Gaumont jusqu'à l'arrivée de M. Feugade. Elle était directeur des services de production, et c'est Louis Feugade qui l'a remplacée dans ses fonctions.
Est-ce que vous l'avez connue personnellement ?
Elle, Alice Guy, je l'ai connue très 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 bien, parce qu'elle est revenue, elle a fait carrière en Amérique ensuite. Elle était partie d'ailleurs avec son mari comme représentante de la Société Gaumont. Elle a fait carrière en Amérique ensuite comme metteur en scène. Ils ont réalisé plusieurs films avec de grandes vedettes d'ailleurs. Et ensuite, quand elle a pris sa retraite, elle est revenue en France. Et c'est là que je l'ai retrouvée. Et je dois dire que j'avais pour elle une grande affection. C'est une femme extrêmement gentille, aimable, et qui elle-même gardait un excellent souvenir de la Maison Gaumont.
Je me souviens de tout le monde, presque. J'ai une mémoire, ils disent, d'éléphant quelquefois, mais...
Il faut dire que Alice Guy est partie en laissant la place à Louis Feugade comme directeur de la production. Donc c'est avant ton arrivée au studio Gaumont.
Vous voyez.
Alors c'est pour ça, et d'autant plus que Alice Guy, qui a été la première réalisatrice de films en France et probablement dans le monde, en réalité est devenue surtout directrice des services de production. Et dans les dernières années où elle est restée à la Société Gaumont, elle n'était plus réalisatrice proprement dite, elle s'occupait d'organiser les productions des différents metteurs en scène. Alors c'est pourquoi Louise Lagrange ne l'a jamais remarquée en tant que réalisatrice.
Les rapports de votre père avec Alice Guy, vous en avez parlé ?
Oui, mon père était évidemment un homme extrêmement strict avec tous ses employés. Étant donné qu'il était jeune à l'époque et qu'elle était jeune aussi, il est possible qu'ils aient eu quelques faiblesses l'un pour l'autre, je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas, et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas. Parce que, en tous les cas, jamais à aucun moment, Alice Guy n'est intervenue pour, comment dirais-je, créer un trouble quelconque dans le ménage de mon père. Donc, ceci n'est pas intéressant. Si toutefois, il y a eu quelque chose. Mais à part ça, quand elle est partie en Amérique, son mari ayant été nommé là-bas comme directeur de l'agence américaine, puisqu'à l'époque, on avait une agence en Amérique, et comme dans bien d'autres endroits du monde, son mari ayant été nommé, elle est partie avec lui. Et, ma foi... Elle ne faisait plus partie de la maison Gaumont à ce moment-là. Enfin, elle est toujours restée en bon rapport, mais mon père avait quand même, comment dirais-je, il en a un petit peu voulu d'être parti. Parce que là-bas, ils se sont organisés, ils se sont installés en Amérique, elle avait ses propres studios, et elle faisait même tourner d'autres metteurs en scène. Enfin, c'était devenu une affaire assez importante.
Oui.
Mais je l'ai toujours considérée comme très très jeune de caractère.
Mmh. La voix de Simone Blaché-Bolton des États-Unis,
oui,
où elle
bien.
Habite.
Également une très grande énergie.
Vous avez des souvenirs d'elle en tant que réalisatrice de cinéma?
Non, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été tenue à part de la vie de mes parents lorsqu'ils étaient, lorsqu'ils avaient leur profession.
Oui.
Lorsque maman était active et mon père aussi, les enfants étaient dans une nursery, vous savez, ou dans un couvent, ou... Nous n'étions pas avec nos parents, alors je ne peux pas avoir de souvenirs d'eux dans leur profession. Tout ce que le souvenir de photographie que j'ai vu, mais pas actuellement. Elle a trouvé que le fait d'être femme aux États-Unis l'a aidée plutôt qu'autre chose. Parce que c'était un phénomène. On n'avait jamais entendu parler d'une femme metteur en scène. C'était un phénomène. Et aux États-Unis, on aime assez le phénoménal.
Oui. Alice Guy, après, a écrit des contes et des nouvelles quand elle est rentrée en France et qu'elle n'a pas trouvé de travail.
Oui, et nous avons vous faire entendre un conte d'Alice Guy qui s'appelle « Russe de guerre » qu'elle a écrit en 1939. Ce conte, en fait, parle d'elle, pensons-nous. C'est l'histoire d'une femme qui était mariée à un ténor, lequel avait une jeune maîtresse et voulait partir avec elle. Et elle a su cela, elle a écrit une lettre à la jeune femme pour la décourager, vous allez voir comment, de partir avec son mari.
C'est l'histoire de la femme d'un ténor très célèbre. Ce ténor reçoit beaucoup de lettres d'admiratrices, de jeunes filles. Un jour, une jeune fille va partir avec lui, et le fiancé de cette jeune fille, éploré, vient voir l'épouse du ténor. Quand il fut parti, un peu réconforté, je revins à ma terrasse et réfléchis un instant. Il s'agit du fiancé de la jeune fille. Le remède que j'envisageais était assez cruel, j'hésitais. Il fallait cependant donner le coup d'épingle qui dégonflerait cet enthousiasme juvénile. Je me décidai et me mis résolument à écrire. « Mademoiselle, j'ai appris, les artistes sont si distraits et si désordonnés, que vous vous disposiez à partir en voyage avec mon mari. Soyez tranquille, je ne vous ferai pas de scène de jalousie. Un artiste est, de par sa nature même, impulsif et passionné. Sa compagne doit fermer les yeux sur ses petites aventures sentimentales. Il y a longtemps que j'en ai pris mon parti. Mais mon cher mari n'est plus très jeune. Quand il revient d'un de ses voyages au pays du tendre, il est généralement assez mal en point. Son caractère s'en ressent, son art aussi. C'est pourquoi, bien que cela soit en dehors de toutes les règles admises, je me décide à vous écrire. Puisque vous voulez bien me remplacer momentanément auprès de lui, permettez-moi de vous faire quelques recommandations, hélas, un peu terre à terre. Raphaël se donne beaucoup pendant les représentations. Quand il sort de scène, il est en nage. J'ai l'habitude, quand il rentre dans sa loge, de le frictionner vigoureusement à l'alcoolat de lavande et de lui faire mettre un gilet de flanelle sec afin d'éviter le fâcheux enrouement, cette hantise des grands chanteurs. Mon mari est un faible pour les plats copieux. Il aime surtout la salade de pommes de terre, très fortement assaisonnée. Je vous en prie, veillez à ce qu'il n'en mange pas avant la représentation. Cela incommode sa partenaire et le rend malade. Dernièrement, on a dû faire doubler son rôle dans la Traviata pour cause d'indigestion. Surtout qu'il n'oublie pas son infusion de bol d'eau le soir avant de se coucher. Il a le foie extrêmement délicat. Enfin, quand il enlève son faux toupet, puisque malheureusement il a perdu ses beaux cheveux, qu'il prenne soin de s'en entourer la tête de son mouchoir de soie. Un rhume est si vite attrapé. Je crois avoir mis dans la valise tous les objets nécessaires. Ses gargaris, ses chaussettes de laine. Il est sujet au rhumatisme et vous voyez d'ici l'effet que ferait en scène un Lohengrin boiteux. Me voici plus tranquille, chère mademoiselle, je vous le confie. Je suis persuadée que vous soignerez notre grand artiste avec un dévouement filial. Il vous en récompensera, j'en suis certaine, par un beau souvenir. Croyez, mademoiselle. Mon pauvre Raphaël rentra le lendemain soir, vieilli, las, désenchanté. Je me demandais avec un peu d'inquiétude si je n'avais pas forcé la dose. Je ne voulais pas la mort du coupable. Afin de lui faire oublier sa déconvenue, je l'entourais de soins plus tendres et plus affectueux encore que de coutume. « Ah, dit-il en soupirant, ma chère femme, il n'y a vraiment que toi qui m'aimes. » Deux ou trois jours plus tard, je reçus une splendide corbeille d'orchidées. Une carte accompagnait portant ces simples mots. « Je n'oublierai jamais. Merci, Maurice. » Signé Guy Alix, alias Alice Guy, mode du jour, numéro 960, du 14-9-1939.
Ainsi termina sa vie Alice Guy. Elle écrivait des contes pour des magazines comme La Semaine de Suzette, Mode du Jour, des choses comme ça. Ça me donne un éclairage, je trouve, assez intéressant d'une femme qui a quand même fait tellement de choses au début du siècle, qui est arrivée là.
Oui, mais ça se rattache aussi à cette situation de secrétaire fidèle, de maîtresse discrète. De femme effacée, de maîtresse discrète d'un monsieur très important pour elle et pour beaucoup d'autres, de femme effacée d'un mari volage, comme on disait. Je veux dire, ça aussi, ça joue un rôle dans sa carrière, non?
Vous savez,
Francis Lacassin.
Méliès a eu le même sort. Il n'était pas la secrétaire fidèle de quelqu'un. Si, il a fini dans le hall de la gare Montparnasse en vendant des jouets. C'était pas mieux. Dans les courants d'air, etc. Sauf qu'il a été reconnu plus tôt sur la fin de ses vieux jours, quand on lui adoucit ses vieux jours. Mais c'est un fait que...
C'est vrai que beaucoup de réalisateurs, Griffith a aussi terminé assez tristement.
Oui, je veux dire que le cinéma est souvent injuste. C'est Abel Gance qui disait on danse sur les ponts que nous avons construits, on ne sait même pas le nom de ceux qui les ont construits. Mais on n'a pas parlé de la carrière américaine d'Alice Guy, là c'est un peu dommage, je trouve. Car elle a été encore plus intense que sa carrière française.
Et réussie.
Et réussie.
Jacques Delanne.
Mais il y a aussi un élément, quand vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'on lui donnait ce petit studio dans un coin de Gaumont et tout, mais je crois que ces films rapportaient de l'argent. Je crois qu'il ne faut pas du tout dire que c'était une petite production comme ça parallèle.
Ah oui, alors là,
il rapportait de l'argent.
Là, Cassin et moi, nous ne sommes pas du même avis. Moi, personnellement, je suis d'avis qu'au contraire, c'était très important. Et ce qu'elle a fait était estimé par Gaumont comme une chose importante.
Parce que ça rapportait.
Écoutez, je crois que c'est un jouet qui lui abandonnait.
Non, mais ça rapportait de l'argent. Il faut regarder les bilans. Ah oui. La Cassin, regardez les bilans de la société Gaumont à l'époque.
C'est parce qu'ils ont rapporté de l'argent qu'on lui a laissé le studio pendant 11 ans.
La partie film vendue, n'est-ce pas, est devenue, disons, à partir de 1901 ou si vous voulez 1902, le principal du chiffre d'affaires de la société Gaumont.
Et elle était très consciencieuse. Et c'est pour ça qu'elle changeait aussi au goût du jour. Elle changeait ses sujets parce qu'elle faisait des films qui rapportaient, parce qu'elle aurait certainement eu honte de prendre l'argent de Gaumont et de faire des choses qui ne rapportent pas.
Je crois
qu'elle était très consciencieuse.
Plus simplement que ça, c'est une femme qui a très bien compris dès le départ ce qu'était le métier de cinéaste, dès le départ de la conception du scénario jusqu'à la réalisation, en passant par la direction des acteurs, la direction de tous ceux qui travaillent, des décorateurs, des costumiers.
Et je crois que c'est Langlois tout à l'heure qui parlait de la confusion qu'il y avait sur le mot auteur, mais dans son cas, il ne pouvait pas y avoir de confusion, elle faisait tout. Elle écrivait le scénario, elle choisissait les acteurs, elle faisait la mise en scène, elle faisait la production. Alors je crois que là, il n'y a pas de confusion possible. C'était vraiment un auteur complet.
Elle avait cependant quand même des difficultés, croyez-moi. Et alors là, je me permets une anecdote que vous excuserez, monsieur, là, sur le fondateur de la Maison Gaumont. Elle me disait, enfin, quand j'ai rencontré Alice Guy avant son nouveau départ pour l'Amérique où elle est morte, elle me disait, j'aimais beaucoup Feuillade parce que nous étions du même avis. Nous pensions que M. Gaumont n'avait aucun sens du cinéma. Et chaque fois qu'il nous recommandait un sujet, ou qu'il trouvait au contraire qu'un de nos sujets était réussi et plairait, nous étions sûrs que c'était raté.
Colette Audry, qui va éditer l'autobiographie d'Alice Guy, voudrait intervenir.
Je voudrais juste dire un mot, parce qu'il y a tout de même là, elle a eu une chance au début, comme toutes les fois qu'on est au début d'un métier, et qu'il n'y a pas encore la concurrence masculine, et il n'y a pas encore l'argent, c'est après qu'il est venu, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, c'est un fait que les femmes peuvent s'introduire. Au fond, vous disiez tout à l'heure, on lui a donné comme un jouet. Il y a eu de ça, au départ. Personne ne pouvait imaginer que le cinéma allait devenir ce qu'il est devenu.
Je n'en suis pas aussi sûr, si je peux me permettre.
Écoutez, en 1920, en tout cas, elle n'a plus réussi à travailler, parce que c'était devenu une chose importante, et qu'il ne fallait pas l'abandonner n'importe qui.
Qui est Alice Guy, par Nicole Lise-Bernheim et Claire Clouseau, lecture Delphine Seyrig, en direct sur France Culture le 2 juillet 1975.